corps alignés. Les vidéos et les témoignages qui ont filtré d'Iran ces derniers jours, malgré des coupures d'Internet, illustrent la violence du régime contre les manifestants. L'ONU et plusieurs ONG dénoncent une répression effroyable. Les victimes pourraient se compter par milliers.
Il y a des informations crédibles faisant état de massacres à l'échelle nationale. Et certains manifestants accusés d'être des ennemis de Dieu risquent la peine de mort.
Le régime des Mollahs riposte par la terreur. Ce matin, dans une prison de Téhéran, le chef du pouvoir judiciaire a rencontré des manifestants détenus comme cet homme qualifié d'émeutier. Il a promis des procès rapides.
Ce sont eux qui décapitent, qui brûlent ou qui immolent des gens. Nous devons faire notre travail sans tarder.
Dans le même temps, la télévision d'État a diffusé ce matin ces images de funérailles d'une centaine de membres des forces de l'ordre qui auraient été tués lors de manifestations. Un rassemblement pro-régime massif comme une réponse à Donald Trump qui, depuis 3 semaines, menace d'intervenir militairement. Hier, il a assuré aux manifestants que l'aide était en route.
Continuez à manifester. Prenez le contrôle de vos institutions.
Près d'un demi-siècle après la révolution qui a chassé du pouvoir le dernier Shah d'Iran, son fils exilé aux États-Unis exhorte les Iraniens et l'armée à faire tomber le régime, avec le soutien des Occidentaux qu'il appelle à l'aide.
Ne nous abandonnez pas en tentant de négocier ou d'apaiser un régime qui, depuis 47 ans, terrorise notre nation.
Alors cet appel, relayé par une partie de la diaspora iranienne, sera-t-il entendu ? Les Iraniens peuvent-ils s'opposer seuls au régime des Mollahs ou une aide extérieure est-elle nécessaire pour le renverser ?
Nouvelles de ma famille, si c'est la question. J'ai toujours aucune nouvelle et j'ai toujours aucune réponse sur WhatsApp parce que les messages n'arrivent pas. Donc on voit toujours que les messages ne sont pas arrivés. Les nouvelles que nous avons, c'est les nouvelles qui nous parviennent, notamment par des chaînes comme la BBC Persian ou Iran International qui arrivent à parler à des médecins dans des hôpitaux en Iran. Et si vous voulez, c'est que des nouvelles extrêmement problématiques. La situation est morbide. On parle de centaines de cadavres dans les hôpitaux. On parle de situations complètement surréelles où des parents vont voir sur des écrans des images de cadavres pour identifier ou pas leurs enfants. Quand tout à l'heure, vous montrez le chef du pouvoir judiciaire iranien et qui qualifie sa propre jeunesse, la jeunesse iranienne, de terroriste et d'ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, dans le droit islamique, c'est un concept bien défini et qui est puni de, la peine de mort. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne le feu vert aux forces de l'ordre et aux partisans du régime de tirer à balles réelles dans la tête des manifestants. Donc la situation actuelle en Iran, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis avec beaucoup de courage pour être libres, pour vivre dans une démocratie. Ils se sont fait tirer dessus à balles réelles. Et comme l'a dit le ministre Jean-Noël Barrot, c'est le pire massacre des manifestants en Iran depuis les années 80.
Depuis 78, quoi.
Les amis iraniens qui sont en France...
qui relayent eux-mêmes les nouvelles.
Les parents, les proches... les ont contactés. Et j'ai notamment le cas de cette jeune femme iranienne qui a appris en larmes hier la mort de son cousin dans la ville d'Ispahan. Il se trouvait dans une manifestation, il manifestait pour une vie meilleure, tout simplement. Il était pacifique, il n'était pas armé. Et en fait, il a été poursuivi dans une ruelle et on lui a tiré à bout portant 3 balles dans la tête. Il est mort. Et ce qui est terrible, c'est que, et c'est un cas parmi tant d'autres, parce qu'il y a eu aussi ces tirs de rafale en plein dans les foules, des tirs délibérés, vraiment, on assiste à une militarisation de la répression aujourd'hui, un massacre à huis clos. Et ce qui est terrible encore plus, c'est que non seulement on vous tue, mais une fois que vous êtes mort, on vous laisse pas tranquille. Parce que c'est terrible pour les familles qui vont ensuite identifier les corps à la morgue et on leur dit qu'on va leur rendre le corps moyennant une compensation financière qui équivaut à peu près 10 000 euros, vous imaginez. Et si vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce qu'on vous demande? De maquiller la mort, de faire passer votre fils ou votre cousin pour un milicien des forces de répression, victimes des émeutiers terroristes. Donc c'est tout un ensemble en fait. Et au-delà de ça, il faut rappeler, c'est une dictature de la peur, une dictature du silence. Vous avez des blessés qui se retrouvent dans les hôpitaux et qui risquent à tout moment d'être enlevés par les forces de répression. C'est des gens qui me disent qu'ils reçoivent des textos en leur disant « on sait où vous êtes, on sait où vous allez, on vous a identifié, on peut vous trouver à tout instant ». Et n'oubliez pas, pour parler de la dictature du silence, donc cette coupure Internet qui dure depuis presque maintenant une semaine, sans compter les informations qu'on a reçues hier, qui nous disaient que maintenant ils font la course aux terminaux Starlink. Oui. Les terminaux qui permettaient encore de faire passer des vidéos. Et là, il y a des rafles à domicile chez les gens.
Alors, Islamic, c'est GRI, c'est l'institution la plus puissante du pays depuis sa création en 1979. On les appelle aussi les passes d'Aran. Ils seraient entre 125 et 180 000 hommes, selon les estimations. Et ils dépendent directement du guide suprême. Leur rôle, c'est de protéger et de traquer tous les ennemis du régime iranien. On parle vraiment d'une armée à part entière, en parallèle de l'armée régulière, avec leur propre capacité terrestre, aérienne, navale. Au Pass d'Aran viennent s'ajouter, on le voit ici, deux autres entités, l'unité d'élite Al-Quds dédiée aux opérations extérieures et à ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, et puis les Basiji, des paramilitaires, en charge, eux, des opérations sécuritaires internes. Ce sont eux, notamment, qui répriment les manifestations. Leur force, c'est de pouvoir compter sur un réseau de centaines de milliers de civils volontaires répartis absolument dans toutes les strates sociales de l'Iran et dans toutes les régions. Et jusqu'à présent, eh bien, l'influence de ces gardiens de la révolution, elle se mesurait à leur capacité militaire, politique, économique. Je rappelle qu'ils détiennent 50% des richesses pétrolières et contrôlent de très nombreuses entreprises dans absolument tous les secteurs. Mais aujourd'hui, ils font tout de même face à plusieurs difficultés. La première, c'est qu'ils ont perdu plusieurs hauts cadres lors de la guerre des 12 jours avec Israël. Et la deuxième, c'est qu'il commence à y avoir des dissidences en interne, c'est-à-dire que certains refusent de tirer sur les manifestants. Bernard Ourcade, est-ce qu'on peut imaginer que ça aille jusqu'à des défections? Et dans ce cas-là, est-ce que ça mettrait sérieusement en danger le pouvoir iranien?
On peut y penser, ce n'est pas pour demain matin. Mais ce qui est très intéressant, entre guillemets, qu'il faut analyser politiquement, c'est un, qu'il y a eu une révolte massive, importante et consensuelle en Iran, même si toutes les régions et toutes les catégories sociales n'ont pas manifesté de façon égale. Ces divisions qu'il y a dans les structures sont importantes pour qu'à l'avenir, effectivement, on puisse voir des failles qui fragilisent le système. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une opposition, il faut aussi qu'il y ait des failles dans le système pour qu'il s'effondre.
Et justement, leur feu vert, notamment dans des zones comme les zones à majorité kurde, on sait que c'est les gardiens qui sont à l'œuvre dans la répression.
Mais, tout à fait.
Parce qu'on pose souvent cette question, est-ce que la fissure est nécessaire au sein de l'appareil militaire et policière, sécuritaire, pour la chute du régime, in fine? Oui, mais c'est une question très délicate. Vous savez, pour qu'il y ait fissure, il doit être sûr que ça va marcher. Pourquoi? C'est une situation de 0 ou 1. Ça passe ou ça casse. S'il y a des militaires iraniens, des gardiens qui se retournent contre le régime et ça ne fonctionne pas, on ne va pas aller leur dire que ce n'est pas bien ce que vous avez fait. C'est l'exécution pour eux et pour leur famille. Donc en fait, le régime aujourd'hui tient par la force létale en tuant les manifestants, tient par la peur qu'elle a su instaurer en différentes divisions, on va dire, du régime. Et si à un moment, il y a une fissure, ça sera plutôt au sein de l'armée régulière et je ne pense pas au sein des gardiens qui sont vraiment le bras idéologique de la République islamique.
Delphine. À se tasser. Parce que c'est vrai que la peur prend le dessus. Il y a beaucoup de familles qui sont débordées, qui passent leur journée à essayer de trouver, à avoir des nouvelles de leurs proches. Où sont-ils passés? Est-ce qu'ils se cachent? Est-ce qu'on va les retrouver dans des morgues? La peur prend le dessus. Donc c'est vrai que, en l'occurrence, là, l'équilibre de la force, il est revenu
en faveur du régime.
En faveur du régime, exactement. On sent qu'il y a une consolidation en place. On a des images qui ont circulé aujourd'hui où on voyait dans la capitale Téhéran, des convois avec des mitrailleuses. Donc, évidemment, c'est impressionnant. Les témoignages que j'ai, encore une fois, indirectement, qui me reviennent, c'est que toutes les villes sont quadrillées. Donc, vous êtes placés sous haute surveillance. Il y aurait même des drones qui voleraient au-dessus des habitations à Téhéran.
D'où l'attente d'une intervention militaire extérieure qui s'installe de plus en plus.
On entend des témoignages, notamment dans la région de Shiraz, où les gens me disaient, cette fois-ci, on sort dans la rue, mais on sait qu'ils risquent de nous tirer dessus. Donc, pour nous défendre, on sort avec nos fusils de chasse. Ce qui explique aussi l'importance des victimes du côté des forces de répression. Je pense qu'il y a eu des moments d'insurrection dans certaines villes. Malheureusement, on n'a pas encore d'image parce que tout est coupé. Mais je pense que c'est des éléments qui vont nous parvenir dans les jours à venir.
Mais non. Tué en masse à partir de mercredi, jeudi, parce qu'il y avait justement quelqu'un d'extérieur qui disait « Allez-y, les Iraniens sont assez forts pour savoir le drame qu'il y a, ils n'ont pas besoin de secours extérieur. » Et quand Trump aujourd'hui dit « Allez-y, je vous soutiens », je vous soutiens, j'irai porter une des fleurs au cimetière, sur vos tombes. C'est un peu cynique et un peu inadmissible d'exploiter la réelle révolte et potentiel révolutionnaire de tous les Iraniens qui en ont assez pour des objectifs qui sont soit israéliens, soit américains, mais en aucun cas au service des Iraniens.
Alors, préciser, parce que c'est des Iraniens de l'intérieur dont on parle, je tiens à préciser qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur demande de sortir dans la rue pour aller manifester. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est encore une fois jeudi, avant que les lignes ne soient coupées, ce jeudi soir où il y a vraiment eu le gros des manifestations, c'était impressionnant tous les témoignages, les gens que j'avais au téléphone qui me disaient qu'ils ressortaient dans la rue pour la première fois depuis des années, dont un jeune, par exemple, de Shiraz, 19 ans, qui avait été arrêté en 2019 lors de précédentes manifestations, qui avait été torturé en prison et qui osait à nouveau sortir dans la rue, et pas seul, il a emmené dans son sillage toute la famille. Vous aviez des personnes âgées en chaise roulante, tout comme des femmes enceintes. Vous aviez vraiment une grande, grande partie de la société qui était dans la rue.
Américaine, pourquoi je dis ça? Je ne suis pas connu pour être un vat en guerre, mais le président des États-Unis, la première puissance du monde, a dit plusieurs fois que s'il y a répression des manifestations, on va réagir. S'il ne réagit pas, pas qu'il devrait ou c'est une bonne chose, mais s'il ne réagit pas, quel message ça envoie au régime? Quel message ça envoie à la population iranienne? Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, à l'intérieur de l'Iran, il y a quand même une forme d'attente. Si, monsieur le professeur, il y a une attente, une intervention militaire américaine. Ça ne veut pas dire que les gens, ils attendent de se faire bombarder, évidemment, dans la rue. Ça peut être des frappes ciblées, ça peut être des frappes contre des casernes, ça peut être des frappes contre des bases
endroits stratégiques.
Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas,
mais
s'il y a aucune réaction américaine, les Iraniens, ils vont quand même se sentir très seuls.
Je suis d'accord, Bernard.
Dans lequel sont les Iraniens. Nous sommes les premiers surpris, parce que on s'attendait pas à ça. Ils nous appellent tous au secours en nous disant dites à Trump d'appuyer sur le bouton et d'attaquer l'Iran. Ils sont au pied du mur parce que de toute façon, ils savent qu'ils sont condamnés à mort. Vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça va laisser des séquelles à jamais. Il y a des noms qui ont été pris, il y a des images qui ont été. Les gens sont identifiés.
C'est-à-dire la répression serait plus forte si jamais il n'y a pas d'intervention.
Je crois qu'on n'a pas conscience aujourd'hui de ce qui est en train de se passer en Iran. Et c'est vrai, comme le disait Farid, c'est-à-dire que Trump a tellement.
Surenchéri
sur cette question-là. Si on doit faire une comparaison régionale, souvenez-vous quand Barack Obama, après les attaques chimiques en Syrie, il avait promis de venir.
Ensuite, il a évoqué la ligne rouge.
Et finalement, cette ligne rouge, elle est partie en fumée. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un Bachar al-Assad. Souvenez-vous, c'était en 2013. Et donc, pendant 10 ans, Bachar al-Assad s'est maintenu au pouvoir avec une machine à tuer et à torturer et à exterminer sa propre population. Pourquoi? Parce que c'était comme un blanc-seing pour lui. Il a continué à agir en toute impunité. Oui. Donc, on voit les précédents de l'histoire, évidemment qu'on ne peut pas comparer ces deux pays, évidemment qu'on n'est pas pour la guerre, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose, que ce soit des frappes ciblées, que ce soit des sanctions. Souvenez-vous,
c'est ce que l'Europe dit.
Le Parlement européen continue, désespère, à mettre la pression pour que les gardiens de la Révolution soient placés sur la silice
des gardiens de la Révolution. Vont parler.